L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de victoire enseigné par un de nos orateurs invités. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Donc, je vous invite à aller avec moi dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2 et verset 23. Et avant ça, j'aimerais lire un verset pour les célibataires qui se trouve dans 1 Corinthiens 7, 33. La Bible dit « Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme et il est partagé. De même, la femme sans mari, comme la Vierge, se soucie des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et c'est elle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. » Donc lorsqu'on parle de couple, c'est sûr qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont célibataires et qui peuvent se trouver un peu en dehors de ce sujet. Mais quand on parle d'honorer son conjoint, bien sûr, on parle aussi d'honorer Dieu. Donc il y a bien des principes que nous allons partager ce matin qui sont aussi que vous pouvez appliquer en fait dans votre vie spirituelle et même par rapport à votre rapport avec d'autres personnes. Dans Genèse au chapitre 2 au verset 23, il écrit « Adam a dit « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Alors le premier point que je voudrais partager avec vous par rapport à comment honorer son conjoint, c'est premièrement en reconnaissant quelle est sa valeur. Pour honorer quelqu'un, nous avons besoin de connaître quelle est la valeur de cette personne ou quelle est la valeur de cette chose. Et lorsque Ève a été créée, Adam a dit, voilà, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. En fait, littéralement, on l'appellera femelle. Ou encore, on l'appellera la personne qui est de la même race que moi, mais d'un autre sexe. Donc, c'est comme ça que Adam avait défini Ève au départ. Au départ, Ève n'avait pas de nom. Ève était simplement la femelle de l'homme. Et c'est comme ça que Adam vivait heureux. Il était heureux, effectivement, d'avoir une personne de la même race que lui, avec qui il pouvait communiquer, puisque c'était un besoin. Mais Adam ne connaissait pas, ne savait pas ce que c'était le mariage. Adam n'a jamais su ce que c'était une robe de mariée. Adam ne savait pas ce que c'était d'inviter des amis à la maison, etc. Adam ne connaissait pas tout ça, puisque Adam était la première personne qui allait donner le premier couple. Donc Adam ne connaissait pas tout ça, et il a dû construire et apprendre comment avoir une relation avec son épouse. Et pour le moment, donc, Ève était pour lui une sans nom. La femme que Dieu lui avait donnée pour être avec lui. Lorsqu'ils ont chuté, Dieu va dire à l'homme, « Qui t'a appris que tu es nu ?» Et là, Adam va dire, « Mais c'est la femme que tu as mise auprès de moi. » Et c'est comme ça que Adam définissait cette femme, cette femelle, comme c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Donc, pour Adam, Ève était une femme que Dieu avait mise auprès de lui. Mais ce n'était pas grand-chose de plus pour le moment. Elle n'était pas définie. Il ne pouvait pas définir sa nature. Il ne lui avait pas donné de nom. C'était une no-name. Quand je suis arrivé au Québec, j'ai eu la surprise de voir dans certains magasins qui ne sont pas connus pour être des magasins de nourriture où on trouve d'excellents mets et d'excellentes nourritures, une marque qui s'appelle No Name. Et en général, quand vous voulez vraiment honorer quelqu'un, vous n'allez pas lui servir du No Name, puisque c'est une marque sans nom. Et pour le moment, Ève, pour lui, c'était une No Name, quelqu'un qui n'avait pas de nom. Et si vous ne pouvez pas définir quelque chose, vous ne pourrez pas connaître sa valeur. Si vous n'êtes pas capable de reconnaître la valeur d'une personne, vous ne saurez pas comment l'honorer. Et Ève, pour le moment, elle n'avait pas de définition, elle était sans nom. C'était quelqu'un pour l'accompagner, mais il ne lui avait pas encore donné de prénom. Et un nom, c'est important. Donc si nous ne savons pas bien définir une chose, nous ne saurons pas quelle est la valeur de cette chose. Il y a un journal ici au Québec, je crois que ça s'appelle La Presse, je crois que c'est québécois, et au début de l'année, il racontait une histoire d'un ferrailleur américain. Et cet homme, il a acheté sur un marché aux puces une petite horloge de 8 cm qui était tout en or. Cet homme connaissait la valeur de l'or. Et il avait acheté cette horloge pour pouvoir la vendre à l'or. Il s'est dit, je vais me faire un certain bénéfice. Donc, il reconnaissait la valeur de cette chose, de cette petite horloge qui avait en fait une forme d'œuf en or. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était le prix de cette chose. Et il a essayé de la vendre et personne ne voulait de ce bijou. Personne n'était intéressé. Finalement, il était découragé. Et un jour, en lisant un magazine, il a vu la même horloge qu'il venait d'acheter dans un magazine de choses de collection. Et il s'est aperçu que cette chose avait une valeur de 36 millions de dollars. Lui, il l'avait acheté 14 000 dollars. Donc il savait que ça avait de la valeur, mais il ne connaissait pas quelle était la valeur réelle de cette chose. Et bien sûr, il a été heureux. En Suisse, il y a une femme qui a acheté un tableau. Elle a acheté l'équivalent de 7 dollars, 5 euros. Et elle le trouvait beau. Bon, je l'ai regardé, il n'avait pas l'air magnifique pour moi. Il n'avait pas trop de valeur, je ne l'aurais certainement pas acheté. Mais en fait, elle s'est aperçue que c'était un Renoir qui valait 100 000 dollars. Donc, il y a des choses dans notre vie et aussi des gens. Et aussi peut-être le conjoint que Dieu a placé à côté de nous, la femme, le mari, l'époux, l'épouse que Dieu a placée à côté de nous. Nous savons qu'elle a une valeur, nous savons qu'il a une valeur, mais certainement, nous ne savons pas la valeur réelle de cette personne. Et nous ne connaissons pas la valeur réelle que Dieu a placée en lui ou en elle. Je ne sais pas si vous connaissez les truffes. Les truffes, ce sont ces champignons de grande valeur. Il y a une truffe qui a été vendue de 750 grammes, qui a été vendue 140 000 dollars, 100 000 euros. Un petit champignon. Si on vous l'avait servi à l'Arche d'Or, c'est vraiment un très bon nom, aux Arches d'Or. La première fois, je n'ai pas compris. Après, j'ai compris, c'est un M comme ça, jaune, un restaurant. Et imaginez, vous allez comme ça, là, je vais le dire le nom, au McDo. Et là, vous commandez votre trio Big Mac. Et on vous sert ça à l'intérieur, dans votre Big Mac. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller voir les gens au comptoir et vous allez leur dire, mais qu'est-ce que vous m'avez donné à manger, là? Et vous allez vous fâcher, sans réaliser que ce que vous avez à l'intérieur, ça coûte plus de 100 000 dollars. Parce que, d'apparence, ce n'était pas ce que vous aviez commandé, vous ne pouvez pas imaginer la valeur que ça a. Et si nous regardons à l'extérieur, il y a des choses, vous savez, ou même parfois des gens qui regardent les autres, ils disent, mais finalement, c'est quoi ce truc-là? Et il y a certains maris ou certaines femmes, au bout de certaines années, ils se posent la question, mais pourquoi j'ai marié ça? Et il y a des gens qui commencent à penser comme ça, sans réaliser la valeur de cette personne. Donc vous pouvez regarder quelque chose en étant un peu dégoûté, entre guillemets, en vous demandant, mais c'est quoi ce truc? Sans savoir qu'elle a une valeur immense. On aurait pu vous présenter, vous donner des truffes comme ça, et vous ne savez pas quelle est cette valeur. Et pourtant, ça pourrait payer votre maison comme ça. Un petit champignon. Donc, quand je reconnais la valeur de quelque chose, je vais aussi savoir la définir. Je saurai la caractériser. Je pourrai en parler positivement. Si je reconnais la valeur d'une personne, je peux en parler. Je suis passionné. On peut me poser des questions et je peux en parler. Et même naturellement, j'en parlerai. Parce que j'aime cette personne. Ou encore, j'aime cette chose. Les gens passionnés, ils aiment les choses et ils en parlent même sans que vous leur demandiez. Deuxième chose, c'est en acceptant quelle est sa valeur. Donc on doit reconnaître quelle est la valeur de notre époux, de notre épouse, mais on doit aussi accepter quelle est sa valeur. Dans Matthieu, au chapitre 13 et au verset 44, il écrit « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Quand il a trouvé une perle d'un grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Nous pouvons reconnaître la valeur de quelque chose ou voir le prix sur quelque chose, mais sans accepter que cette chose a cette valeur. On peut reconnaître la valeur du sacrifice de Jésus-Christ et beaucoup de gens dans le monde à qui je parle, ils reconnaissent que Jésus est venu pour eux, mais ils n'acceptent pas la valeur du sacrifice de Jésus. La Bible nous parle ici de deux personnes. Le premier, dans un champ, a trouvé un trésor. Et il a vendu tout ce qu'il avait pour acheter ce champ. Est-ce que cet homme était intéressé par ce champ ? Non, cet homme était intéressé par le trésor qui contenait ce champ. Paul dira que nous vieillissons et notre corps vieillit de jour en jour, je paraphrase. Notre corps se détruit petit à petit. Et certaines personnes, certains couples, certains maris ou certaines femmes, au bout d'un moment, lorsqu'elles regardent leur conjoint, leur femme, leur époux, ben, elles sont déçues, ou ils sont déçus. Mais si vous regardez à l'apparence du champ, vous pouvez être déçu, effectivement. Par contre, si vous regardez au trésor qu'il contient, vous allez continuer à écarter tout ce qui est dans votre vie pour vous occuper de ce champ. La deuxième personne a trouvé une perle. C'est un homme qui cherchait des perles. Peut-être il les collectionnait. Mon père, c'était un grand collectionneur. Je me rappelle, on allait en Suisse et il collectionnait les cartes de téléphone. Alors on allait dans les cabines, une après une, et on cherchait des cartes de téléphone. Pourquoi ? Parce que ça avait une certaine valeur pour lui. Pour d'autres personnes, ça n'a aucune valeur, mais pour lui, ça en avait. Je collectionnais des petits, il y a des pots de lait en Suisse avec des petits paysages dessus, et j'étais enfant, et je collectionnais ça, mais pour d'autres personnes, ça n'avait aucune valeur, il les jetait à la poubelle. Cet homme ici, il cherchait des perles, et quand il a trouvé cette perle de grand prix, il était allé vendre tout ce qu'il avait. Quand nous rencontrons Jésus-Christ, Jésus s'attend à ce que nous puissions tout vendre pour cette perle de grand prix. Jésus est la perle de grand prix. Et c'est au-delà du couple, au-delà de notre vie personnelle, au-delà de tout ce que nous avons, la personne que nous devons honorer. Quand tu trouves Jésus-Christ, et quand tu as trouvé Jésus-Christ, tu es censé vivre pour Jésus et t'attacher à cette perle de grand prix. Qu'est-ce qui fait ta joie ? Qu'est-ce qui fait ton bonheur ? Qu'est-ce qui fait la joie de ton couple, la joie de ta vie ? Jésus est la perle de grand prix. Jésus-Christ. Et pour beaucoup, Jésus est simplement un homme qui est passé. Pour d'autres, il est un prophète. Parce que les gens ne définissent pas réellement, ne savent pas réellement la richesse qui se trouve en lui. Si le monde voyait réellement la richesse qui se trouve en lui, les églises seraient pleines à craquer. Parce que les gens chercheraient à le connaître. Lorsque nous nous approchons de Jésus, nous reconnaissons quelle est sa valeur. La Bible dit que lorsqu'on s'approche de lui, on est rayonnant de joie. Lorsqu'on s'approche de Jésus, plus on s'approche de lui et plus on réalise que toutes les choses autour n'ont pas de valeur. Comme le pasteur Joël disait tout à l'heure, lorsqu'il est dans la présence de Dieu, il a envie de quoi ? D'être au ciel avec Jésus. Quand tu connais intimement Jésus, quand tu passes du temps avec lui de qualité, pas de la religion, mais une communion sincère avec lui, intime, et que tu es là dans les profondeurs de sa présence, tu n'as plus envie que d'une seule chose, c'est demeurer. Demeurer dans sa présence. Parce que tout passera. Et l'apôtre Paul l'avait bien compris lorsqu'il a connu Jésus-Christ. Cet homme éduqué, cet homme respecté, cet homme béni financièrement, cet homme béni intellectuellement. Lorsqu'il a connu Jésus-Christ, il a dit, je regarde toutes les autres choses comme de la boue. Parce qu'il avait rencontré quelqu'un qui avait une grande valeur, Jésus-Christ, fils de Dieu. Si ta femme ou ton mari, tu ne sais pas définir sa richesse, si tu ne sais pas reconnaître sa richesse, si tu ne sais pas accepter sa richesse, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que tu vas la mépriser au lieu de l'honorer. Et quelque chose qui combat pour nous, c'est le temps. Le temps et les circonstances. Le temps et les circonstances nous empêchent de voir la personne qui est à côté de nous réellement et d'accepter sa valeur. Nous aurons du mal à reconnaître la valeur de quelqu'un si nous ne savons pas l'apprécier. Certaines personnes peuvent reconnaître le prix de certains aliments. Il y a des aliments qui coûtent cher. Je me souviens, j'étais à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. En passant par là, j'ai vu un restaurant qui était là dans le hall, dans un couloir simplement. Tout le monde est pressé. Et vous pouvez manger ça, manger là sur le pouce, sur une chaise de bar un peu rapidement. Et en passant par là, il était un peu différent ce petit bar-là, entre guillemets, restaurant. J'ai vu qu'il servait du caviar, des huîtres, etc. Et vous pouviez vous faire une petite assiette en passant rapidement à plus de 1 500 $. Une assiette de caviar. Vous pouvez reconnaître le prix sans accepter le prix. Vous pouvez voir que ça a un prix, oui, mais sans accepter le prix pour vous-même. Vous pouvez reconnaître que, oui, effectivement, Dieu m'a donné une femme, Dieu m'a donné un époux, et oui, ça a un prix, mais sans reconnaître réellement, sans accepter réellement qu'elle a ce prix. La troisième chose importante, c'est en acceptant aussi quelle est notre valeur. Donc, on doit reconnaître la valeur de l'autre, on doit accepter la valeur de l'autre, mais on doit aussi accepter quelle est notre valeur. Si je ne m'aime pas moi-même, je ne pourrai pas aimer les autres. Ce sera difficile de pouvoir vraiment aimer les gens. Vous savez qui trouve les truffes, ces champignons dont on a parlé? Ce sont des cochons. Spécialement pour Pasteur Joël, cet exemple. Qui aime tellement le cochon. Et ce sont des cochons qui trouvent des champignons d'une si grande valeur. Et il y a aussi un autre type qui trouve ces champignons. Ce sont des mouches d'une certaine espèce. Et vraiment, il y a juste cette espèce-là. Et qu'est-ce que font ces mouches? C'est qu'elles viennent mettre leurs œufs dans ces champignons. Et après, vous mangez ça, c'est tellement bon. Et vous savez où vont les mouches et de quoi elles se nourrissent. Alors, qui a de la valeur? Est-ce que c'est la truffe ou est-ce que c'est le cochon qui l'a trouvé? Le cochon a plus de valeur que ce qu'il a trouvé. Et on doit reconnaître quelle est notre valeur. S'il n'y avait pas l'huître, il n'y aurait pas la perle. Il y a un homme comme ça au restaurant, il a commandé des huîtres et il a trouvé 5 perles. Une valeur de plus de 2000 euros, c'est 2600 dollars. 2800 dollars. Comme ça dans son assiette. Si vous ne savez pas reconnaître la valeur de quelque chose, si vous ne savez pas la saisir, et si vous ne savez pas aussi reconnaître quelle est votre valeur, vous allez vivre... Vous savez, il y a des gens qui étaient esclaves. Et vous connaissez cette histoire, quand on les a libérés, ils avaient encore cette mentalité d'esclaves, parce qu'ils pensaient qu'ils étaient moins bien que les autres. Et ça s'est attaché à beaucoup de nations, à beaucoup de gens, à beaucoup de peuples, de penser qu'ils sont moins bien que les autres, parce que ça a été leur identité, c'est comme ça qu'on les a nommés. Si tu ne reconnais pas ta valeur, tu ne pourras pas manifester Christ en toi. Si tu reconnais ta valeur, tu pourras manifester Christ en toi. Donc tu as besoin d'accepter quelle est ta valeur. Il y a des célibataires comme ça, ils ne trouvent pas la personne parce que certains d'entre eux, pas tous, mais certains d'entre eux, c'est parce qu'ils n'acceptent pas quelle est leur propre valeur. Alors ils ne prennent pas soin d'eux, ils ne font pas attention à eux, ils parlent n'importe comment, ils regardent n'importe quoi, ils ne s'habituent pas à avoir quelqu'un proche d'eux, ils ne se préparent pas à ça. La Bible nous dit « prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Comment on se prépare à la rencontre de Dieu? En se sanctifiant, en se préparant. Pour que lorsqu'il nous voit, on n'ait pas à rougir, on n'ait pas à avoir honte, on n'ait pas à se cacher comme Adam s'est caché. Parce qu'on connaît lui, on connaît Jésus. On marche avec lui. Une quatrième chose, c'est en lui révélant quelle est sa valeur. Comment honorer l'autre? J'ai reconnu sa valeur, j'ai accepté sa valeur, j'accepte que moi aussi, oui, j'ai de la valeur. Ensemble, nous avons de la valeur. Mais aussi, je dois lui révéler quelle est sa valeur. Ça, c'est une chose tellement importante que Dieu m'a montré. Si je suis un homme, si je suis marié, je dois révéler la valeur de ma femme à ma femme. Et ça marche aussi pour les relations en général. Dieu nous a appelés, établis, pour que nous puissions montrer aux hommes qu'ils ont de la valeur aux yeux de Dieu. Lorsque je reconnais que j'accepte la valeur de mon conjoint, mon rôle va donc être de communiquer cette connaissance de sa valeur. Dans Genèse au chapitre 3 et au verset 20, la Bible dit « Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. » C'est étonnant, mais juste après qu'ils aient chuté et que Dieu ait établi un certain nombre de jugements contre eux, qu'est-ce que va faire Adam? Automatiquement, il va donner un nom à Ève. Qu'est-ce que va faire Dieu? Automatiquement, il va les revêtir d'habits. Dieu a revêtu Adam et Ève d'habits et Adam a revêtu Ève d'un nom. Ève s'est retrouvée revêtue d'un nom. La Bible dit « Je te connais par ton nom ». Dieu dit « Je te connais par ton nom ». Et nous savons que nos empreintes sont uniques. Dieu nous connaît par notre nom. Donc, qu'est-ce que va faire Adam? Adam va donner un nom à Ève. Il est dit « Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. » Qu'est-ce que veut dire Ève? Ça veut dire « vie » ou encore « vivant ». Qu'est-ce que ça veut dire en fait littéralement? Celle qui donne la vie. Pour Adam, Ève était simplement jusqu'ici la femme qu'il avait mise, que Dieu avait mise auprès de lui. Mais à un moment, il a réalisé qu'à cause de sa condition, il avait besoin de définir. Et parce que simplement, il grandissait dans sa relation avec elle, ils allaient être éloignés de Dieu. J'ai plutôt intérêt de définir la personne qui se trouve avec moi et de l'honorer, et de commencer à l'honorer. Il a dit, tu t'appelleras Ève, la mère de tous les vivants, celle qui porte la vie. Quand Ève a trouvé son identité, la Bible dit qu'ils ont été écartés du jardin et la première chose qu'ils ont fait, en tout cas, qui nous est dit dans la parole, la Bible dit qu'Caïn connut sa femme. Quand Ève a eu une définition, quand on l'a caractérisée, quand Adam a dit « tu es celle qui donne la vie est sortie d'Ève. Quand Adam a dit à Ève, par son nom, « tu portes la vie en toi », qu'est-ce qui s'est passé? La vie est sortie d'elle. Si tu reconnais la valeur d'une personne, si tu reconnais la valeur de la personne que Dieu a mise à tes côtés, cette valeur va commencer à se manifester. Si tu méprises cette valeur sera éteinte, enfermée, comme le Saint-Esprit dans la vie de beaucoup de gens, enfermée, parce qu'il est méprisé. Donc Adam lui a donné un nom nouveau. Et ce qui est intéressant, c'est que le nom de Ève, il porte quelque chose de plus que encore celle qui donne la vie. Le nom de Ève, en fait, dans l'Ancien Testament, c'est Shava. Ça ne se prononce pas comme ça, mais ça se dit Shava. Ça s'écrit C-H-A-V-V-A-H. Et ce mot vient de Shava, qui s'écrit de la même façon, mais il y a un V en moins. Et qu'est-ce que veut dire ce mot Shava? Ça veut dire déclarer, révéler. Et en fait, c'est utilisé dans l'Ancien Testament 19 fois. Par exemple, lorsque Nebuchadnezzar voulait savoir quel était le rêve qu'il avait fait et quelle était son explication. Lorsque les amis de Job sont venus avec leur grande révélation et qui voulaient révéler à Job leur grande révélation, c'est ce mot qui est utilisé, de révélation, Shava. Dans Psaume 19, 2, il est écrit « Le jour en instruit un autre jour et la nuit en donne connaissance à une autre nuit ». Ici, donner connaissance, c'est le mot Shava, qui parle de révélation. En fait, ça comporte vraiment le sens de la nuit qui apporte une révélation avec elle pour celui qui vient après. Donc, quand il a appelé Ève, il a appelé cette femme d'un nom qui voulait dire que en toi, Ève, il y a des révélations. En toi, il y a des trésors. En toi, il y a quelque chose, un trésor. En fait, qu'est-ce qu'il lui disait ? Maintenant, Ève, tu as une grande valeur. Ève, tu as quelque chose à l'intérieur de toi, tu portes en toi quelque chose. Et effectivement, Ève portait en elle Israël. La Bible dit qu'ils se sont connus, il y a eu Caïn et Abel. Le méchant a tué le bon et le bon a été remplacé par un troisième homme qui s'appelait Seth. Et la Bible dit que Seth a eu des enfants. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à invoquer Dieu. D'où le peuple d'Israël est sorti ? De Ève. Et d'où ce qu'il est sorti à l'origine ? De la bouche d'Adam. Si Adam n'avait pas parlé, certainement Ève n'aurait pas enfanté la promesse. Si tu ne parles pas sur ta femme, si tu ne parles pas sur ton mari, n'espère pas revoir un trésor en elle ou en lui. La Bible dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous sans faire de reproche, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Si tu doutes, si tu parles constamment négativement contre la personne que Dieu a mise à tes côtés, n'imagine même pas voir de nouveaux trésors. N'imagine pas découvrir de nouvelles surprises. N'imagine pas voir quelque chose de nouveau en cette personne parce que tu es en train de la mépriser complètement. Donc, nous devons vraiment révéler la valeur de la personne qui se trouve à côté de nous. Parce que peut-être cette personne ne sait pas quelle est cette valeur. Peut-être on ne lui a pas appris quelle était sa valeur. Et il y a Abraham aussi. Abraham a compris aussi cette leçon. Dieu lui a fait une promesse dans Genèse au chapitre 13 et au verset 16. Dieu lui a dit « Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera aussi comptée. » Donc Dieu lui fait une promesse d'une descendance nombreuse. Mais la Bible dit aussi dans Genèse 16, 11, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar, Et Sarah dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Sarai avait une mauvaise perception de Dieu. Elle avait une mauvaise perception d'elle-même. Et Abraham et Sarai avaient une mauvaise compréhension de la façon dont Dieu allait accomplir sa promesse. Dieu dit donc à Abraham, « Tu auras une descendance nombreuse. Ce sera au travers de toi. » Mais pour Abraham, ça devait être au travers d'Éliézer. Donc, Abraham n'avait pas compris la parole de Dieu. Abraham ne comprenait pas que le plan de Dieu pour sa vie, en fait, était rattaché à la vie de Sarai, sa femme. Et même plus que cela, il ne comprenait pas que c'était Sarai elle-même qui portait sa promesse. Dieu parle à qui ? Dieu parle à Abraham. Mais où se trouve le trésor ? Dans Sarai. Si Sarai n'était pas là, il n'y a pas de descendance, il n'y a pas de promesse. Dieu parle à Abraham, mais la promesse se trouve dans sa femme. Et Sarai et sa femme ont essayé par tous les moyens de réaliser cette promesse en dehors de leur propre couple, et ça ne fonctionne pas. Dieu n'est pas intéressé à ce que ce soit Éliézer, et Dieu n'est pas intéressé à ce que ce soit Ismaël. Dans Genèse au chapitre 17 au verset 15, Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. » Dieu commençait à transformer la mentalité d'Abraham parce que Dieu savait que s'il ne changeait pas sa façon de penser, il passerait à côté de la promesse. Dieu avait précédemment changé même son nom, Abraham, à Abraham, père d'une multitude, en lui faisant contempler les étoiles du ciel. Donc Dieu a changé la mentalité d'Abraham sur sa propre vie, accepter sa valeur, avant d'accepter même la valeur des autres. Et Dieu va lui ordonner de changer le nom de son épouse. « Je te donnerai d'elle un fils, je la bénirai, et elle deviendra des nations. » Une femme qui devient des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit. Il n'y a pas que Sarah qui rit. Et dit en son cœur, « Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans ?» Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle ? Et Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face !» Dieu n'était pas intéressé par Ismaël, dans le sens d'accomplir sa promesse. Donc non seulement Abraham voulait un autre héritier, Éliézer, ou encore Ismaël, quelqu'un qui n'était pas sorti. Écoutez, Ismaël était sorti de lui, oui ou non ? Mais Ismaël n'était pas sorti de sa femme. Abraham avait reçu pour lui-même sa promesse. Donc ils se sont concertés, ils se sont dit, bon, finalement, tu as reçu la promesse, ça doit sortir de toi. Mais Dieu n'était pas intéressé à ce que ça sorte juste d'Abraham, mais à ce que ça sorte de Sarai, d'Abraham et de Sarah. Tu ne pourras jamais accomplir ta destinée sans celle ou celui que Dieu a placé à tes côtés. Ce serait faux de penser comme ça. Et le monde nous a amenés à penser comme ça, mais c'est complètement faux. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas divin. Et Dieu donc change le nom de Sarah. Il l'a fait passer du nom de princesse, parce que c'est ce que ça voulait dire, à princesse souveraine, ou encore princesse élevée, ou encore femme noble. Dieu a commencé à montrer à Abraham quoi ? Il lui a dit, mais finalement, la personne que j'ai mise à tes côtés, ce n'est pas simplement une princesse. Ou encore, ce n'est pas simplement une femme que tu peux dire c'est ta sœur, comme il avait fait en Égypte. En Égypte, il a dit, oh, c'est ma sœur. Plus tard, il a dit, bon, c'est une femme de second rang, je vais vers Agar. Il l'a traitée mal. Il n'a peut-être pas été éduqué pour ça. Mais Dieu lui dit, non, ce n'est pas ni ta sœur, ni une femme de second rang, c'est une princesse souveraine, c'est une princesse élevée. Et au travers d'elle, j'accomplirai ma promesse. Dieu, qu'est-ce qu'il était en train de lui dire finalement ? Change ta vision de ta femme. Je ne pourrai pas me manifester dans ta vie si tu ne changes pas la vision de ta femme parce que tu marcheras avec ta femme. Agar pourra partir, Ismaël pourra partir, mais tu resteras avec elle. Change la vision de ta femme. Ce n'est pas un second choix, mais c'est le premier choix. Abraham, lorsqu'il a reçu sa promesse, il avait 75 ans. C'est à 99 ans, 24 ans plus tard, qu'il a commencé à comprendre que sa promesse ne pouvait pas se passer sans sa femme. 24 ans. Il y a des leçons qu'on apprend très tard et trop tard. Les gens disent, ah, si j'avais su. Elle est à côté de toi, il est à côté de toi. alors occupe-toi-en. Honore-la, honore-le. Dieu dit, je la bénirai, je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois et des peuples sortiront d'elle. Qu'est-ce que Dieu lui disait finalement? Ta femme est une reine. Et si Abraham avait compris quelle était la valeur de sa femme, il ne l'aurait jamais considérée comme il l'avait fait précédemment. Abraham pensait peut-être qu'il s'agissait de sa promesse, mais c'est Sarai qui portait sa promesse. Donc une chose qu'on doit faire, c'est révéler, au travers d'un nom ici, la valeur de notre conjoint à notre femme, à notre mari. Et ça se fait aussi en insufflant ou en communiquant sa valeur. Comment? Oralement. La Bible dit, Éphésiens 5, je lis pour vous, Éphésiens 5, 25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Le mari a un rôle primordial de communiquer à sa femme quelle est sa valeur. En fait, il doit insuffler à sa femme, la façon dont le Saint-Esprit la voit. Je me souviens, il y a à peu près 7 ans, j'étais là sur mon canapé, dans ma maison, et Dieu m'a montré une image simplement, et j'ai vu ma femme en train de prêcher et de s'agiter. Elle ne prêchait pas, mais Dieu m'a montré ça, et j'ai insufflé ça dans ma femme. Dieu te montrera, si tu as un cœur ouvert, les dons que Dieu a mis en elle ou en lui. Si seulement tu as des yeux pour voir, Dieu te montrera, Dieu te révélera, et tu devras insuffler en elle. Quel est son don? Quelle est sa promesse? Qu'est-ce que Dieu veut pour elle? C'est pas que la femme ne peut pas savoir pour elle-même ce à quoi elle est appelée, mais tu vas l'aider simplement à s'élever. C'est ce que l'homme est appelé à faire au travers de sa femme. Il doit lui communiquer quelle est sa valeur et l'encourager à la mettre en action. Et si Adam avait su communiquer à Ève quelle était sa valeur, certainement elle ne serait peut-être pas déjà faite séduire, elle n'aurait pas été à la recherche de nouveaux plaisirs. La Bible dit que c'était agréable à voir, etc. C'était bon à donner du discernement. Mais si Ève avait compris, si Adam lui avait dit « Mais finalement, tu sais, tu pourras chercher tout ce que tu veux, mais le trésor se trouve en toi », elle n'aurait peut-être pas été à la recherche d'autres plaisirs. Si elle avait compris que finalement, quoi que ce soit que je goûte dans ce monde, ça n'a pas la valeur que Dieu a mise en moi. Ça aurait pu être différent. Cinquième chose, en lui exprimant quelle est sa valeur. On a parlé de révéler, je suis obligé d'aller vite aussi. En lui révélant quelle est sa valeur, mais aussi en lui exprimant. C'est pas pareil. On peut lui révéler avec des paroles, avec des mots, mais on exprime avec des attitudes, avec des actions ou encore physiquement. Donc, s'il faut révéler et communiquer la valeur à son conjoint, il faut aussi lui l'exprimer physiquement et par notre attitude. Il y a des pères comme ça, ils passent leur temps dans leur garage et ils s'occupent de leur voiture. Et qu'est-ce que ça crée chez leurs enfants? Ça crée chez leurs enfants... Mon père aime plus sa voiture que moi. Ils passent leur temps au travail, ils ne sortent jamais avec eux. Et qu'est-ce que ça crée en eux? Mon papa, ma maman aiment plus son travail que moi. Et ça crée toutes sortes de problèmes et des pensées suicidaires parfois. Mais si une chose a réellement de la valeur pour nous, nous allons l'exprimer par nos actions et par nos attitudes. Il y a des choses qui ont une valeur pour nous, mais pas pour d'autres. L'électricité, pour moi, ça a un peu de valeur, mais pour ma femme, ça en a beaucoup moins. Moi, je peux baisser le chauffage, mais elle va l'augmenter. Parce qu'on n'a pas le même rapport avec l'électricité. On a acheté une maison avec ma femme et on m'a demandé si j'étais excité de devenir propriétaire. Et en fait, bon, j'ai presque rien ressenti. Un jour, j'ai acheté une montre d'une grande valeur pour honorer mon père. Je voulais l'honorer et vraiment, je savais qu'il voulait une montre de cette marque-là. Alors, j'ai fait 2 heures de route et là, je suis arrivé chez un homme et en fait, j'ai réalisé qu'il avait une soif. Lui et son épouse, ils avaient soif de Dieu. Alors j'ai commencé à leur annoncer l'évangile. J'étais tellement béni, j'ai prié pour eux, je leur ai offert un livre que j'avais avec moi dans ma voiture. Et finalement, j'ai donné l'argent et je leur disais au revoir dans ma voiture. Et là, finalement, il est revenu en courant parce que j'avais oublié la montre. C'est la valeur que tu as pour une chose, c'est là-dedans que tu vas mettre ton intérêt. Cette montre n'avait pas de valeur pour moi, mais par contre, le salut de ces gens, d'avoir été une source de bénédiction, ça c'est ce qui me réjouissait. Les choses de ce monde peuvent avoir une valeur pour beaucoup, mais pour les enfants de Dieu, ça n'a pas la même valeur. J'ai acheté tout dernièrement une voiture et je me suis retrouvé dans un bureau parce qu'on devait régler des choses techniques. Et en entrant dans le bureau, j'ai vu cette femme et il y a un verset qui est venu en moi. Je lui donnerai un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Et la voiture, mais je m'en fichais complètement. Tout ce qui m'apportait maintenant, c'était d'apporter cette parole à cette personne. parce que tu mettras de l'importance à ce que tu trouves important. En fait, on exprime naturellement ce qui a de la valeur pour nous par nos actions et par nos attitudes face à cette chose ou face à cette personne. Donc, nous donnons du temps à ce qui nous semble être important. Et on va s'offrir, on va se donner à ces choses ou à cette personne. Et si ce n'est pas naturel, ça va le devenir. Donc, une chose qu'on doit faire aussi, c'est de protéger, et je vais terminer là-dessus, de protéger cette chose ou cette personne. On raconte l'histoire d'un homme, il s'était acheté des verres en cristaux, du cristal, de grande valeur, et ils avaient mis dans un carton bien protégé à l'arrière de sa voiture. Et là, il a attaché ce carton, c'était bien protégé et tout ça. Et il conduisait et tout d'un coup, il a eu un accident terrible. Et il s'en est sorti indemne. Et il a regardé derrière lui le carton et le carton était sain et sauf. Le problème, c'est qu'il n'avait pas attaché son bébé derrière et son bébé avait été projeté. Et il est mort. Pourquoi ? Bon, il arrive des accidents comme ça, bêtes. Mais d'une manière générale, si tu accordes de l'importance à quelque chose, tu vas protéger cette chose. Protéger. La Bible dit « Protège ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Protège ta femme plus que toute autre chose, parce que c'est d'elle que viendra la promesse. C'est d'elle et c'est avec elle que tu seras béni. C'est avec cette personne que tu seras une bénédiction. » Une chose qu'on voit souvent, parce qu'on reste longtemps avec les gens, c'est la familiarité. Lorsqu'on devient familier avec les choses. Pour quelqu'un qui est riche, aller dans un restaurant chic, un restaurant 5 étoiles, ça n'a pas une grande valeur pour eux. Mais pour quelqu'un de pauvre, ça a certainement une valeur beaucoup plus grande. Mais le riche, il est devenu familier avec ces choses-là. Et un danger dans le couple, c'est de devenir familier avec la personne que Dieu a mise à nos côtés, avec la personne avec laquelle nous vivons. Si nous devenons familiers avec ces choses, nous allons mépriser ces choses. Quand j'étais en France, mon insecte préféré, c'était la coccinelle. J'aimais tellement ça. Je dis jamais parce que ce n'est plus le cas. Parce qu'arrivé au Québec, les coccinelles ont envahi ma maison, surtout en ce moment. Et je regarde ces coccinelles, et avant, je les aimais tellement, mais maintenant, j'ai juste envie de leur dire, mais je vais vous détruire. Parce qu'elles n'ont plus la même valeur pour moi. Parce que je suis devenu familier avec elles. L'eau potable. On remplit nos piscines d'eau, de 50 000 litres d'eau potable. On peut boire et ne pas tomber malade. Alors qu'il y a des gens qui n'ont même pas un verre d'eau. L'eau n'a pas la même valeur pour nous. Je vais maintenant appeler mon épouse qui va nous parler de la façon aussi, d'une des façons dont on peut honorer son mari ou sa femme. On a parlé de reconnaître la valeur de son conjoint, de sa femme. On a parlé de l'accepter. On a parlé d'accepter aussi sa propre valeur. On a parlé de révéler à l'autre quelle était sa valeur et aussi d'exprimer par nos attitudes quelle est cette valeur. Soyez bénis, vous l'êtes en Jésus.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.